Voilà, je vous salue les uns et les autres. Plaisir de vous rencontrer. Nous vivons tous du pardon de Dieu, sans lequel la vie chrétienne n'aurait pas de sens. Et nous ne le vivons du pardon de Dieu pas qu'une seule fois au début, nous le vivons tous les jours. Je suis conscient qu'en moi, il y a assez d'ombre pour avoir besoin de tous les jours de la grâce de Dieu. Nous vivons du pardon, pas qu'une fois au début, nous vivons chroniquement du pardon de Dieu. Centré sur toi, Jésus, c'est être centré sur un pardon qui nous est offert, parce que l'amour de Dieu précède notre amour pour Dieu. Mais quand Jésus est au centre du pardon, il fait quelque chose d'incroyable. Non seulement il nous offre le pardon, mais il nous dit en même temps de prendre le pardon tellement au sérieux qu'on sera pardonné en fonction du pardon qu'on donne à d'autres. Et ça, c'est une autre leçon. Le pardon, c'est une histoire de relation. Le pardon est la justice. Le mot justice vient de Jésus aussi. C'est Jésus qui a dit que si ta justice ne dépasse pas celle des religieux, bibliques, pharisiens, Matthieu chapitre 5, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. La justice que Jésus nous demande va au-delà d'une justice où on se sent pardonné, mais où on ne pardonne pas aux autres. La justice que Dieu demande de nous est au-delà de celle des pharisiens, c'est une justice qui, à son tour, exerce la miséricorde vis-à-vis d'autrui. C'est la raison pour laquelle un Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, titre un de ses livres « Il n'y a pas d'avenir sans pardon ». Après l'apartheid, où deux clans se sont fait tellement de mal, le pardon, c'est une autre histoire. Quand l'amertume a touché les cœurs, c'est l'histoire coloniale. On s'est fait du mal et on a fait du mal. C'est l'histoire des Grecs et des Turcs, on en a parlé. Que de haine entre ces deux peuples à cause d'un passé traumatique où on s'est fait du mal mutuellement. En fait, il n'y a pas un peuple du monde qui n'a pas besoin et de recevoir et de demander le pardon. On va y réfléchir ensemble. Je sais qu'on vient de fêter une fête nationale. La fête nationale, 1er août, sans doute très anciennement une fête du soleil le plus radieux de l'année, où il fait le plus chaud. Elle est, 1er août est assez récent chez nous comme fête nationale. Une fête nationale, même si ça repose sur des mythes, c'est un moyen relativement utile de raviver le sentiment d'appartenir à un seul pays. Non ? C'est ça la fonction. 14 juillet pour les uns, 1er août pour les autres, et puis allez savoir pour qui, pourquoi. Raviver le sentiment d'appartenance nationale, c'est bon, c'est utile, pourvu que ce ne soit pas contre les autres. C'est même pour le climat familial. Si on cultive l'idée que nous, on est meilleur que les autres et on aime bien se réunir, c'est certainement pas mieux que ce que fait tout le monde dans le monde entier. Les Chinois pensent aussi habituellement comme ça. J'ai un autre livre qui rappelle une autre prédication que nous avons eue il n'y a pas longtemps, un livre qui est bouleversant. Si vous pouvez le trouver en nouvelle édition, lisez-le, vous ne vous ferez pas de mal. Jean Vanier, La communauté, lieu du pardon et de la fête. Magnifique ce livre. La communauté, lieu du pardon et de la fête. Il y a assez de ténèbres en nous pour nous transformer en... Je vais vous montrer tout de suite. En des gens qui utilisons des formules comme le pardon, mais pour signifier autre chose que ce que l'Écriture souhaitait que nous pratiquions. Excuse-moi, pardon, et on passe à autre chose. C'est facile, hein ? Est-ce qu'il vous a pardonné ? Vous ne vous intéressez pas. De quoi il vous a pardonné ? Vous ne vous intéressez pas non plus. Juste, il y a eu un moment de flottement où on ne se sent pas bien et on veut passer à autre chose. Mais ce n'est pas ça le pardon de Dieu. Et ce n'est pas ça le pardon que Jésus voudrait que nous pratiquions. C'est une phrase rituelle. Lorsqu'on le craint de déranger, d'ailleurs, moi j'ai été éduqué comme ça, d'ailleurs c'est bon d'éduquer les enfants comme ça, si on fait quelque chose de mal, demandez à l'enfant de demander pardon. C'est bon. Tout le monde ne l'apprend plus aujourd'hui. Lorsqu'on veut vite passer à autre chose, on utilise le mot pardon. Quand on a causé un petit désagrément, on utilise le mot pardon. Toutefois, j'aimerais juste vous rendre attentif. On ne demande pas pardon pour ne pas avoir aimé, on demande juste pardon pour avoir fait du mal. C'est bizarre, hein ? Le bien qu'on a pu faire mais qu'on n'a pas fait, on ne demande pas pardon. Quand on a blessé par des paroles trop rapides ou des gestes irréfléchis, on demande pardon et c'est bien de le reconnaître. Reconnaître que quelque chose est affecté dans la relation. Dieu s'intéresse à la relation. Il est autant offensé par nos manques de relations justes et bonnes que nous offensons quelqu'un quand nous faisons quelque chose de mal. Ça, c'est notre Dieu. C'est déjà reconnaître qu'on est en face d'une autre personne et qu'on n'est pas indifférent à elle et au tort qu'elle subit. Je redouterais le moment où viendraient des beaux cultes où on s'adresse au Seigneur, mais où on s'adresse à un Seigneur qui ne s'intéresse plus aux relations horizontales. C'est certainement alors plus un culte biblique, même si ce qu'on dit est encore juste. Dieu s'intéresse à la qualité des relations, et les relations nous en vivons au travail, dans le voisinage, dans la famille, dans le couple, entre les générations, des relations naturelles, simples. Quand nous croisons les personnes que nous croisons à Lausanne ou dans l'endroit où nous vivons. Et une question. Oui, ben c'est ça. Il y en a qui ont compris. Qui n'a jamais fait taire en lui la voix de l'amour ? Qui ne s'est jamais surpris en train d'égratigner au passage, d'effrayer juste parce qu'on est mal ou parce qu'on est méchant tout simplement ? Au fond de soi, est-ce qu'on aime le prochain comme soi-même ? L'homme est un loup pour l'homme. Tous les hommes, les Suisses aussi, les Alsaciens aussi, les gens de ma famille aussi, sont des loups pour les hommes. C'était des gentils gens qui ont participé à la Shoah. En apparence, des gens normaux. La capacité de faire du mal, le tueur est en nous plus que nous l'imaginons. Le fait de le reconnaître peut aider à progresser. Le fait de ne pas le reconnaître ne nous aide pas à progresser. C'est Thomas Hobbes qui disait « L'homme est un loup pour l'homme ». Ce n'est pas flatteur pour les loups. C'est un peu sarcastique, mais c'est franchement pas flatteur. Eux, ils s'intéressent à montrer leur agressivité quand ils ont faim, quand il y a une histoire de prééminence dans la meute, mais nous, des fois, c'est pour bien moins que ça. L'homme est pire qu'un loup, parfois. Et c'est pour ça que ce n'est pas l'idéal du mariage ou l'idéal de l'Église qui manque dans l'Église ou dans les couples. C'est la capacité de le vivre. Parce qu'on vit avec les uns avec les autres. Et nécessairement, quand on vit avec les uns avec les autres, il y a des prises d'offense, des offenses, des choses où je peux faire un détour parce qu'il y a une incompréhension, des choses qui, quand je vois qu'il y a la relation qui est affectée, je peux aller et puis demander pardon quand je vois que c'était pas bien ce que j'ai fait. Mais je me demande si nous avons encore une culture de la demande de pardon. Juste parce qu'on se rend compte qu'on a déplacé, prononcé des mots déplacés, fait des actes déplacés. Nous pardonnons souvent mal, l'instinct spontané de rendre le mal pour le mal est le plus grand ennemi du pardon, mais aussi l'individualisme. Aujourd'hui, tout le monde s'occupe de sa relation avec le Seigneur quand il est croyant, mais plus tellement de la relation horizontale. Or, les deux vont ensemble pour le plan de Dieu, dans l'Évangile au moins. Éliminer autrui ou l'éviter nous donne le sentiment d'être quelqu'un ou d'être du bon côté. Il y a quelque chose qui s'est passé, je sens qu'il y a une blessure, je ne sais même pas trop d'où, j'évite la personne, et du coup, le réveil de l'Église est en train de s'écrouler parce que j'évite d'aborder les vraies questions. Ou je pardonne trop facilement. Dans le temps, la tendance était pardonner tout le monde sans s'expliquer. Parce qu'il est dit, tu dois pardonner. Non ? On ne s'expliquait pas. Aujourd'hui, la tendance est de ne plus demander pardon et de ne pas s'expliquer non plus. Ce qui fait l'individualisme aujourd'hui dans lequel nous sommes vraiment, par lequel nous sommes vraiment imprégnés. Moi, j'ai grandi dans une famille qui avait certainement une bonne théologie du côté papa. Ils ne s'entendaient pas très bien dans le couple pendant un temps, mes parents. Mais il y avait marqué dans les 10 commandements, tu seras toujours gentil. Si, c'est déjà pas mal remarqué, mieux que l'inverse. Hein ? Tu seras toujours gentil. Je ne sais pas quelle est votre culture familiale, d'où est-ce que ça vient. Ne fais pas de vagues. Évite les conflits. Le conflit, c'est mauvais, c'est un péché. Moi, on m'a dit ça. Mais la réalité, c'est que le conflit fait partie de la vie. Le conflit en lui-même n'est pas un péché, c'est la possibilité de Dieu d'intervenir dans une situation pour l'assainir. Moi, j'ai grandi avec « tu éviteras de confronter ». C'est-à-dire, évite le conflit. Tu prends la tangente. Surtout, ne fais pas de remarques désobligeantes quand tu as raison, encore moins quand tu as tort. Là, on a raison. C'est ma culture familiale. Alors, comment vous voulez que quand il y a conflit, ça se passe bien? On fait comme si, on met un couvercle par-dessus, et en fait, on est encore ensemble, mais on n'est déjà plus ensemble de cœur, vous saisissez? Puisque ce n'est pas réglé. On m'a dit, pardonne, 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 pardonne. Mais pardonne voulait dire, fais comme si. Ce n'est pas le pardon biblique, ou plutôt, ce n'est pas que ça, le pardon biblique. On va essayer d'y réfléchir encore. Ne parle pas avec les gens qui ne sont pas de ton bord. Qu'est-ce que ça donne dans l'Église ? Ne parle pas avec les gens qui ne sont pas de ton bord, parce que les autres ont tort. Tu ne les as même pas écoutés, mais ils ont tort. Et dans les familles, c'est pareil. Il y a des familles qui arrivent à travailler pour que dans le temps, malgré des héritages, on s'aime encore. Malgré les remariages ou les mariages, on tienne encore ensemble. Mais ça tient à quoi? Il y a des familles, c'est juste éclaté quelque chose d'incroyable. Et on ne se parle plus. J'ai grandi dans une famille où on pensait « tu affirmeras avoir toujours raison ». Et si tu n'aimes pas le déroulement de la situation, blâme les autres. C'est pas bon. Et ce qu'on vit parle plus fort que ce qu'on dit. C'est la raison pour laquelle il est important pour nous d'essayer de réfléchir à cet enseignement qui est tellement central dans l'Écriture. Il s'agit pour nous de faire confiance, Seigneur, apprends-moi à bien me situer comme un disciple peut le faire, un disciple de Jésus, qui a pu remonter les bretelles à des gens qui en avaient besoin, Jésus, et qui a pu pardonner à des gens qui en avaient besoin. Mais il a fait les deux ensemble. Pardon ? L'indifférence dans la relation est parfois pire que la haine. Au moins la haine, c'est net. On sait à quoi s'en tenir. Mais quand j'évite chaque fois les conflits, je me retrouve tout seul avec mon Dieu. Quel Dieu ? Mais il n'y a plus de vie communautaire, il n'y a plus le ciment de la communauté que Jésus veut que nous vivions. Car les deux sont perdants. L'indifférence, quand il y a un désaccord profond, ou quand j'ai été offensé par quelqu'un, ça veut dire en termes clairs, à mes yeux, tu ne comptes pas. Parce que si je n'étais pas indifférent à toi, j'irais te trouver. On en parlerait. On trouverait une base. Et la grâce de Dieu nous accompagnera. Tu ne comptes pas est une manière de tuer. Tu ne comptes pas à mes yeux. Nous arrivons maintenant à l'enseignement, et j'aimerais faire un petit exercice avec vous. Il y a des évangiles, il y a Matthieu et Luc qui reprennent un enseignement de Jésus qui n'est pas tout à fait le même. Je vais faire la lecture des deux, Matthieu et Luc, et ensuite je vous demanderai quelle est la différence entre ces deux passages. Dans Matthieu 18, il y a un énorme chapitre remarquable où on voit Jésus qui enseigne la relation au prochain. Tout le chapitre, nous n'en lisons qu'un extrait. Et puis, j'aimerais tout à l'heure que nous lisions un même accent d'enseignement dans l'Évangile selon Luc, et puis on essaiera de voir quelles sont les différences. Jésus venait de dire, au sujet de l'Église, que là où deux ou trois se mettent d'accord, sont assemblés, en mon nom, c'est-à-dire dans le projet de Jésus, il est au milieu d'eux. Autrement dit, sont d'accord pour faire le programme de Jésus, Jésus sera présent au milieu d'eux. Ensuite, il y a ce fameux Pierre. Vous savez, le même Pierre à qui Jésus a dit, conféré dernière prédication, « Les autres, peu importe, toi, suis-moi ». D'accord ? Vous vous souvenez, certains qui étaient là ? Maintenant, le même Pierre, vous savez, le même Pierre à qui Jésus a dit, après que le coq ait chanté trois fois, « Prends soin de mes petits ». Le même Pierre qui savait très bien qu'il dépendait du pardon de Jésus, d'accord ? Le même Pierre. Jésus, il y a un dialogue avec Pierre. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pécherait contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» C'est long, 7 fois, hein, quand il revient surtout avec la même chose. Hein. Ah, le gars, il a des habitudes. Hein. Malsaines. Mais comment on change une habitude? Ça prend du temps, hein, c'est sûr. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça fait beaucoup. Ça fait énorme. Ça fait infini quasiment. Hein, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Et après, il y a une histoire qui est incroyable au sujet du débiteur impitoyable pour les autres. On lui a remis une énorme dette, et le gars, quand quelqu'un lui devait une dette, il n'était pas capable de remettre la même dette. Et cette parabole se termine par « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » Autrement dit, celui qui n'a pas pardonné à son tour, qui a mis l'autre en prison, le Seigneur va le mettre en prison. Parce qu'il a fait ça aux autres. Il a fait ça aux autres et Jésus, dans sa règle, dit « Ce que tu fais aux autres, on te le fera à toi aussi. » C'est la règle de Jésus. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Vous avez retenu l'enseignement ? Maintenant, nous arrivons à un autre évangile, l'évangile selon Luc. Médecin d'origine grecque, parle plutôt pour les Grecs. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, hein, là il y a une notion de temps, hein, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens, tu lui pardonneras. » Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la confiance. » Enfin, la foi, la confiance, c'est le même mot. Hein. Là, on comprend très bien qu'après ça, il faut de la confiance. Question, vous avez vu les différences en... Où se trouvent les différences quand Jésus parle dans l'Évangile selon Matthieu ou l'Évangile selon Luc? Dans l'un, vous avez relevé des différences ? Matthieu ne parle que du pardon. Et Luc dit s'il se repent. C'est ça ce que tu veux dire ? Oui, c'est ça.
Et ensuite, s'il revient à toi.
s'il revient. Oui, reprends-le. Il y a une confrontation chez Luc qui est quasiment absente dans ce verset-là de Matthieu. D'accord ? Simplement, je vous rends attentif que dans Matthieu, juste avant, si ton frère vient à pécher, va le trouver et fais-lui tes reproches seul à seul. Ça se trouve aussi, sauf pas dans ce verset que j'ai choisi. Fais-lui des reproches. Le même Matthieu qui dit « pardonne 70 fois, 7 fois » lui dit « si ton frère a péché, va le trouver, reprends-le ». Bon, il y a des manières de faire, hein. Et certains d'entre vous qui viennent des milieux d'arbistes, ça leur évoque d'autres choses, hein. Si tu n'écoutes pas, prends deux témoins avec toi. Mais là, il dit « seul à seul, va le trouver ». C'est déjà bien. Il ne dit pas ceux de ta famille, il dit ton frère, hein, ça peut être, ou ta sœur. Autre chose, est-ce que vous avez remarqué d'autres choses entre Matthieu et Luc ? Oui ? Oui, il y a une notion de temps dans l'un, 7 fois le jour. Oui, alors, c'est bien d'avoir relevé ça, nous allons continuer. Et nous allons réfléchir, j'ai un programme qui peut être, en première fois, reconstruire sur de bonnes bases. Le modèle de Dieu en Christ, c'est celui-là. Alors que nous étions encore sans force, autrement dit, des rien du tout, le Christ est mort pour des impies que nous étions. Le modèle, c'est la grâce précède toute chose. Quand il y a un conflit, c'est de là que nous tirons qu'il nous faut être disposé à pardonner avant même qu'il demande pardon. Disposé à pardonner. Vous ne pouvez pas dire, moi je reste obtus et je reste ferme jusqu'à ce qu'il vienne se repentir. Le Christ n'a pas fait comme ça. Il a dit, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des impies. Alors que nous étions encore des pécheurs, autrement dit dans l'hostilité. Ça, c'est la base. Reconstruire sur cette base. Il y a l'histoire, c'est une histoire qui se passe en Afrique, ça pourrait très bien se passer ici si nous étions encore dans la fraîcheur de l'Évangile et si nous comprenions vraiment ce qui est dit. C'était dans un village d'Afrique, nous étions une quinzaine réunis depuis plusieurs jours. La plupart étaient des responsables de leur village et des communautés chrétiennes. Des petites communautés dont tous les membres ont été baptisés adultes. C'est la première génération de chrétiens en Afrique. Ici, ce n'est pas le cas. Hein ? Quoique, dans certaines familles, ça peut de nouveau être le cas. En Suisse. Nous voulions découvrir ce qu'est le pardon et nous glanions dans l'évangile selon Luc pour surprendre Jésus dans son attitude face aux pécheurs. Jésus rencontre une femme pécheresse. Jésus vient chez Zachée, le collaborateur des Romains, hein, collecteur d'impôts. Il accueille le bon voleur, il mange avec les publicains chez Matthieu. Jésus, on lisait très lentement, laissant le texte pénétrer aux profondeurs de nous et donnant à chacun la possibilité de s'exprimer. Et voilà que nous abordions les paraboles dans les évangiles. L'homme qui retrouve sa brebis et la femme qui recherche sa pièce de monnaie, nous arrivions à l'histoire, enfin, cette histoire incroyable de ce père de famille que le fils a quitté pour gaspiller tout ce qu'il avait, une partie de son héritage, et qui revient chez son père et qui lui dit « j'ai péché contre le ciel et contre toi ». Cette histoire absolument folle dans les évangiles, c'est alors que la discussion dans ce cercle a éclaté. On aurait dit qu'on allait tous s'empoigner. C'était un beau tumulte. « Je vous dis que ce père est fou !» dit quelqu'un. « Ah non, il ne faut pas amener ce texte au village, chez nous. On ne peut pas le respecter, ce texte, ni ce père. S'il ne devait pas sortir pour courir devant son fils, il ne devait pas le faire. C'est pas acceptable. Si les gens font comme cela, bientôt il n'y aura plus de village. » Les jeunes ne respecteront plus les anciens, si les jeunes ont le droit de revenir pour demander pardon et se jeter au cou de leur père après avoir fait une telle infamie. Cela n'est pas du pardon, c'est de la faiblesse, répondit quelqu'un d'autre. Certains m'interpellaient, « Pourquoi as-tu amené ce texte? Tu vas tout démolir ici. » Mais mon frère, j'ai rien amené. Tu avais déjà l'évangile dans ta main quand je suis arrivé. C'est pas moi qui l'ai écrit, j'y suis pour rien, c'est Jésus. Il t'avait déjà dit que Dieu est fou. Tu veux pas le croire? Dieu est fou, je te le dis. C'est peut-être pour cela qu'il nous aime. Autrement dit, l'amour doit précéder même la réconciliation. Mais ici, le Fils est revenu. Il en découle, ne rendez pas le mal pour le mal. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas appeler le mal mal. Mais sois vainqueur du mal en faisant le bien. Comment je peux être vainqueur du mal dans une situation donnée? Vous avez certainement tous des situations qui vous viennent à l'esprit. C'est ça que notre cerveau est capable de faire par l'Esprit de Dieu, nous rendre attentifs à un certain nombre de choses. Il lui dit, là j'aimerais que tu progresses. Là j'aimerais que l'évangile pénètre dans la relation. Être disposé à pardonner, c'est dire à quelqu'un, tu vaux mieux que tes actes. Tu vaux mieux que tes actes. Ce que tu as fait, c'est une crasse peut-être, mais tu vaux mieux que ta crasse. C'est tout un message que Jésus a fait pour que nous ayons la vie et pour qu'à notre tour, nous le pratiquions aussi. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus vivre la vie de couple pour différentes raisons. Mais une des raisons, c'est qu'ils n'ont jamais appelé le mal un mal et qu'ils l'ont dit suffisamment à temps pour qu'on puisse la traiter à sa racine. On a couvert tout en pensant « tout va bien se passer, il suffit de pardonner ». Mais ça ne marche pas comme ça. Le pardon et la justice, ce sont deux choses qui vont ensemble. La justice et la vérité seront mieux recherchées après avoir été pardonnées. Ça, c'est très important. C'est très important. Je peux mieux guérir de mon mal celui que je t'ai fait. Je peux mieux guérir de mon mal si tu ne me menaces pas et que je peux traiter mon mal sans avoir peur de ta menace. Vous comprenez ça? C'est comme ça que Jésus a fait pour nous. Je peux mieux guérir de mon mal si je sais que la grâce me touche et que je peux le traiter sans avoir peur de ce que tu me feras en retour. Le pardon est un don d'amour. C'est pas de la faiblesse. Il faut être adulte dans l'amour de Dieu pour être en mesure de pardonner. On peut apprendre. Tu vaux mieux que tes actes, disait Paul Ricoeur. Pardonner, c'est dire à l'autre, sans le dire avec les mots, tu vaux mieux que tes actes. La possibilité de s'améliorer. C'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup dans l'Église, hein ? Non ? Il fait peur. Je peux apprendre à aimer d'une manière un peu plus adulte, et le Christ nous donne les moyens de le faire. Ce qu'est le pardon ? C'est une remise des griefs. Le mot grief, on ne l'utilise plus beaucoup ici en Suisse romande. Renoncer à tirer vengeance. Autrement dit, ce que tu mérites, je ne vais pas te l'infliger. D'abord, il y a des tribunaux pour ça, ce n'est pas moi qui dois le faire. Mais également, ce que la relation, je voudrais qu'elle puisse permettre d'évoluer. Seule la victime peut pardonner. C'est faux de dire, je te demande pardon et croire qu'on est quitte en ayant demandé. Quand on demande, on attend une réponse. Et nous n'avons pas la culture d'attendre la réponse et de dire, oui, je te pardonne. On se dit d'abord, pour qui suis-moi? Il y en a un qui peut le faire, c'est le Christ. Mais à moi, ben quand même, le Christ nous demande de dire, tu sais, je veux marcher de nouveau en bonne entente avec toi. Je ne tiendrai pas compte du passé. C'est oublié. C'est-à-dire prendre sur elle les conséquences de l'erreur d'autrui. C'est ça le pardon. C'est un don, c'est-à-dire je prends sur moi la peine que tu mérites de par ton acte. Il y a un temps où c'est encore possible de pardonner et il y a un temps où c'est plus possible. J'ai travaillé suffisamment avec des personnes âgées où je sais qu'ils sont morts ceux avec lesquels on aurait dû résoudre les conflits à temps. C'est pas simple à régler celle-là, celle d'une conscience flétrie où tout d'un coup on garde en tête quelque chose qui a été fait, qui n'a pas été réglé à temps. Oui, la grâce de Dieu suffit pour pardonner ces péchés-là. Et pour ces personnes âgées, je ne le dis pas pour les jeunes, j'ai une petite histoire pour vous. Les histoires, ceux-là, on les retient, les choses un peu théoriques. J'ai entendu l'histoire, une légende sans doute, d'un pasteur d'une petite paroisse du Midwest américain qui, jeune homme, avait commis un péché qu'il jugeait terrible. Vous vous souvenez de choses que vous, quand vous étiez jeune, que vous avez fait, qui étaient un peu terribles ? Non ? Moi, je me souviens d'une. Des fois, ça me remonte. Même que j'ai demandé pardon. Mais c'est drôle, hein, la mémoire. Bien qu'il ait imploré le pardon de Dieu, il porta toute sa vie le fardon de ce péché. Il ne parvenait pas à avoir la certitude que Dieu l'avait vraiment pardonné de ce péché de jeunesse. Un jour, on lui parla d'une dame âgée de son assemblée, ça pourrait être ici, qui avait à l'occasion des visions. Le pasteur avait entendu dire qu'au cours de ses visions, cette dame s'entretenait fréquemment avec le Seigneur. Après un certain temps, le pasteur trouva suffisamment de courage pour aller visiter la vieille dame et lui dire « Est-il exact qu'il vous arrive d'avoir des visions de la présence du Seigneur ?»« Oui, dit la dame. Est-ce exact que durant ces visions, vous parlez souvent avec le Seigneur ?» « Tout à fait, dit la dame. Eh bien, la prochaine fois que vous aurez une vision et que vous parlerez avec le Seigneur, est-ce que vous êtes prêt à lui poser une question pour moi ?» Vous y êtes ? La dame regarda le pasteur un peu curieusement. Jamais on ne lui avait demandé une telle chose. « Oui, avec plaisir, mais quelle est votre question ?»« Eh bien, demandez-lui d'identifier le péché que votre pasteur a commis lorsqu'il était jeune. » Oui, c'est un drôle de truc, ça. Hein. Bon, mais le gars, il était obnubilé par son problème, qui lui remontait trop à la tête. Hein, les pasteurs aussi, des fois, sont curieux. La dame, maintenant très curieuse, accepta volontiers. Quelques semaines passèrent, et de nouveau, le pasteur rendit visite à la dame. Après une tasse de thé, il lui demanda timidement et prudemment « Avez-vous eu des visions récemment ?»« Oui, » répondit la dame. « Avez-vous parlé au Seigneur ?»« Oui. » »« Lui avez-vous posé la question ?»« Oui. » Nerveux et apeuré, le pasteur hésita un moment et lui demanda « Et la réponse du Seigneur ?» La dame fixa le pasteur dans les yeux et lui dit gentiment « Il m'a répondu qu'il ne pouvait pas s'en rappeler. » Nous sommes tellement tournés vers nous que nous oublions d'être suffisamment tournés vers le rocher de la vie et à tous les âges de la vie. Quand il est temps, vivons réconciliés, confrontons sainement, pas comme des pharisiens, mais comme des disciples de Jésus. Mettons au clair, pardonnons. Déjà avant, dans l'esprit du pardon, mais après, dans la réalité du pardon. Perdons notre temps pour aller trouver l'homme et la femme, l'ami, peu importe la génération, avec lequel nous pensons qu'il y a un problème. Perdons ce temps, c'est gagner le temps. Mais après un temps, marchons avec le Seigneur, nous restons tous. Comme cet Indien qui portait le nom de blessé marchand. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Savoir que nos péchés sont immergés au plus profond des mers est pour nous quelque chose de très, très important. La disposition à pardonner précède la confession, indispensable pour des communions rétablies. C'est le ABC du discipulat. Si on ne commence pas par là, ça ne sert à rien de continuer avec autre chose. Tout est là. À partir de là, nous pouvons marcher et apprendre comme des adultes à ressembler au Christ à tous les temps de notre vie. Et ne veut pas dire considérer le coupable comme innocent. C'est la raison pour laquelle pardonner, pardonner, pardonner n'est pas biblique, aussi bien que confronter, confronter, confronter n'est pas biblique. Les deux ensemble nous aident à marcher selon l'Esprit du Seigneur Jésus et selon l'Évangile. Mes responsabilités devant le prochain qui m'offense sont simples à résumer. Nous les avons vues, c'est une manière d'arriver à l'essentiel. Si l'on ne pardonnait jamais, on ne verrait bientôt plus personne. A dit Alfred Capus. Nous avons besoin, pour la vie communautaire, de nous situer devant le prochain qui offense. Il y a bien sûr des pharisiens, vous ne pouvez pas les empêcher de prendre offense dans votre liberté. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ils veulent. Vous n'êtes pas obligé de marcher avec Jésus. Eux, de toute façon, ils ne vont pas tomber. Mais ceux qui sont jeunes dans le Seigneur, qui sont fragiles, ceux-là peuvent tomber. Et là, il est important de pouvoir faire les détours nécessaires, quitte à ne pas manger de viande, comme on l'a lu à la fin de l'Épître aux Romains, et ou manger des légumes. Et moi, j'aime la viande. Hein. Les légumes aussi. Reprends-le. Nous retenons ceci. C'est aussi évangélique d'entendre « pardonne » que « reprends ». Si tu vois quelque chose d'inadmissible, dis que c'est inadmissible. Tu peux pardonner avant, dans l'esprit du pardon. Le pardon ne peut venir que si la méchanceté est mise en évidence. Je sais très bien qu'il y a des situations très difficiles où ceci ne s'applique pas facilement. Mais reprends-le est indispensable. Demandez aux gens qui sont avec des gens qui ont été traumatisés sexuellement dans leur enfance, comme c'est compliqué, cette histoire de pardon, cette histoire de culpabilité est tronquée. Comme ils ont du mal à ressortir eux-mêmes avec un équilibre digne dans la fragilité nouvelle qui est là. Te souvenant que tu es un pécheur, toi aussi, reprends. La justice et le pardon vont ensemble. Cherche à gagner. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Tu as gagné ton frère, dit Jésus dans Matthieu 18. Et ne pas l'humilier. Parce qu'il y a des gens, ils se sentent exister que quand ils peuvent rabaisser les autres. C'est une pathologie qui doit être amenée à la lumière de l'amour de Dieu. Avoue le mal et demander pardon peuvent être distingués. Et adopte alors une bonne méthode. Va le trouver seul à seul, sans public. Il écoutera si tu viens pour accuser ou pour médire. La justice, c'est dire qui a fait du tort à l'autre, qui est le coupable et qui est la victime. Et en cette matière, j'aimerais vous dire que bien souvent, il n'y a pas coupable et victime, seulement d'un côté ou de l'autre. Nous sommes des mélanges. Parfois, c'est possible, mais l'important, c'est que nous avancions ensemble en aimant la justice du royaume de Dieu. Le préalable au pardon, c'est si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est quelque chose qui m'a suivi mentalement. Vous savez, ces choses que l'on répète. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner. Le pardon n'est pas juste quelque chose qui est distribué sans que ça affecte la vie. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. De même pour nous. Si Jésus était disposé à pardonner, c'est la preuve, par exemple, qu'il a dit cette parole, « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il est disposé à pardonner, mais le pardon réel qui amène à la réconciliation, il passe par la confession des péchés. Je ne sais pas, ici nous n'avons pas de confessionnal dans un petit coin, vous savez, comme à l'Église catholique, mais j'espère qu'on le pratique. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de petit endroit qui s'appelle un confessionnal que nous n'avons pas besoin de nous confesser les uns aux autres. Peuple protestant, que tu as mal à ta confession. On le dit tellement généralement, vous savez. On croit que all inclusive, tout est inclus. Mais ce n'est pas prendre au sérieux la réalité même du mal tel qu'il affecte. Je veux bien croire que parfois nous avons besoin d'être généraux. Mais il est aussi utile de faire des démarches et d'aller demander pardon aux personnes que l'on a affectées par un manque d'amour ou par un acte qui n'était pas juste. Pardonne-lui. J'ai mis une image un peu choquante. On implore pardon, puisque c'est un cadeau qu'il vous fera. On ne dit pas juste à la légère. Il vous fait un cadeau quand il vous pardonne. Donc j'ai mis « on implore pardon ». Ce n'est pas un dû, c'est une grâce de Dieu. Heureuses les personnes qui ont bénéficié du pardon des autres. C'est à ce moment-là qu'ils ont vécu des guérisons, des améliorations, des prises de conscience qui les ont libérées. Soyons de ces personnes qui sont bonnes vis-à-vis des autres, ça leur permettra de croître également. Pardonner au prochain, on a appris que c'est sans limite, mais également que ça doit être fait de tout votre cœur, le siège même où je prends les décisions. de tout votre cœur, dit Jésus, Matthieu 18, 35. Tous les péchés, notoires ou cachés, sont une dette également, non seulement envers le prochain, mais simultanément envers Dieu. C'est la raison pour laquelle Job, il dit, « J'ai péché contre toi seul. » David aussi. Il est important pour nous de ne pas dissocier les choses. Ce qui affecte le prochain affecte Dieu en même temps. C'est notre religion qui le dit. C'est toute la révélation de l'Ancien et du Nouveau Testament qui nous dit cela. Prends au sérieux la vie que tu vis avec les autres. Nous inquiétons-nous du pardon de Dieu. Refuser de pardonner, c'est boire chaque jour un verre de poison et espérer que c'est son ennemi qui va trépasser. En Afrique du Sud, il y a des trolls de tribunaux. C'est des tribunaux où à la fois les victimes et les offenseurs sont ensemble avec la société. Et ils décident qu'est-ce que la victime demande de l'offenseur. Qu'est-ce que la victime demande de l'offenseur. Et je me souviens de cette histoire de cette vieille dame africaine à qui on avait fait ce que des fois les Blancs avaient fait aussi, mais aussi que des Noirs avaient fait. Vous vous souvenez de ce temps-là où on mettait autour de quelqu'un qu'on avait attrapé de l'autre race un pneu qu'on allumait pour qu'il meure? Vous vous souvenez de ça? En Afrique du Sud? C'était le cas de figure, et une maman était là avec le blanc, cette fois, c'était en l'occurrence, qui avait mis le feu. Et puis, cette femme, elle pleure, elle dit, « Je te pardonne pour la justice. Moi, je suis seule, mon fils unique. » Il est mort dans des circonstances effroyables comme ça. Mais je te demande de venir me rendre visite chez moi, dans ma hutte, dans ma petite cabane, une fois tous les mois, pour remplacer mon fils. La réconciliation amène à des situations autres que juste « voici le bien, voici le mal, voici la peine que je fais dans une prison ». La réconciliation, elle est inventive. Elle fait du bien et elle restaure des situations. Bien sûr, on ne peut pas restaurer la vie qui a été prise de quelqu'un, mais dans la justice du royaume, il y a des histoires comme celle-ci qui peuvent avoir lieu. Je termine par celle-là, « Le pardon, une force qui libère ». C'est aussi le titre d'un livre de Azarkourdian, « Le pardon, la puissance qui libère », Samuel Azarkourdian. « Le pardon, une puissance qui libère ». Dans l'épître aux Romains, nous en avons parlé il n'y a pas longtemps, il n'y a pas le mot pardon. Et pourtant, tout tourne autour du pardon dans la vie communautaire de l'épître aux Romains. Frédéric de Coninck avait écrit « La justice et le pardon » et il a traité la vie elle-même dans l'église de Rome, où il y avait des faibles et des forts, des gens qui se jugeaient et des gens qui se méprisaient. Le pardon est une puissance qui libère, qu'elle nous libère aussi, nous tous, du repli sur nous-mêmes et nous rendent inventifs pour des relations où le Seigneur Jésus demande à passer dans nos vies. Le pardon libère et l'offenseur et l'offensé et libère des conditions d'une saine relation qui honore le Seigneur. Que les évangéliques soient connus pour ça. Amen. Je vous invite à la prière du Seigneur Jésus. Vous savez pourquoi ? Je vous invite à vous lever, nous prions le Notre Père.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi que